Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous sous le thème du jardin. Le jardin. Vous savez que la France, hein, dans ses patrimoines, possède quelques jardins, pas mal de jardins célèbres. Je vais citer ne serait-ce que le jardin Pape du château de Versailles, hein, dans les Yvelines. Je pense aussi celui qu'on a vu, le jardin de Marquessac en Dordogne. Magnifique. Et vous savez, le jardin pour les hommes, c'est synonyme de verdure, n'est-ce pas? De feuillage, de fruits, de vie. Est-ce que vous le savez que le jardin est omniprésent dans la Bible? Je faisais ma recherche, j'étais surpris. Et ce matin, je voudrais vous parler de trois jardins très particuliers. Parce que ces trois-là est en rapport à ce que nous allons célébrer tout à l'heure pour la Sainte Cène. Et je voudrais parler du jardin en Éden. Qu'est-ce qui s'était passé? Et après, parler du jardin des oliviers. Nous avons chanté de ses souffrances, de l'agonie du Seigneur, dans ce jardin des oliviers ou le jardin de Gethsémané. Et je terminerai par un jardin qui se trouve près de Golgotha, sur le jardin qui nous montrera, qui indiquera la résurrection. Donc ces trois jardins, je vous ai dit tout simplement pourquoi, parce que les événements qui se sont passés vont nous rappeler le fil rouge du plan du salut que Dieu a conçu pendant toute l'éternité passée. Et aussi, va nous rappeler et nous préparer pour la Sainte Cène que nous allons célébrer par la suite. Je vous demande de vous ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 17, pour voir dans ce premier jardin, mais qu'est-ce qui s'était passé? Genèse chapitre 2, versets 7 à 17. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous lisons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Voyez? Du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Je saute et je poursuis le verset 15. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçait dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce qui s'était passé dans ce premier jardin, le jardin en Éden. Rappelons brièvement ce que le texte nous dit. Il avait formé l'homme, il avait soufflé en lui une respiration de vie, il devient une âme vivante. Au verset 7, n'est-ce pas? Nous voyons que Dieu a préparé un endroit appelé Éden, et dans cet endroit, il y avait un jardin. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Quelque chose à remarquer d'abord, il n'est pas écrit que le jardin fut Éden lui-même. Souvent, on confond que oui, le jardin, c'est Éden. C'est pas vrai. Le verset 8 et le verset 10 nous le dit bien. Dieu planta un jardin en Éden. Et verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Mais qu'est-ce que veut dire le mot Éden? Ça veut dire tout simplement délice, un endroit délicieux. Et vous savez, c'est le même mot que le roi David utilisait quand il parlait de délice, les torrents de délice, dans le psaume 36, versets 8 et 9. Donc, Éden était l'endroit, était magnifique, il est bien arrosé. Nous avons vu les quatre fleuves. Un lieu agréable, avec de grands arbres, au milieu du jardin, se trouve l'arbre de vie. Selon le verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin, non pas pour sa satisfaction propre, mais pour le cultiver, nous lisons, et pour le garder. Tiens, pourquoi le garder? Une question se pose. Si Adam devait garder le jardin, ça suppose qu'il y a un certain danger, n'est-ce pas? Bien que Adam n'a pas eu connaissance encore du bien et du mal, la Bible nous le dit. Mais Dieu lui informe de l'existence du mal, car il lui avait dit ce que nous venons de lire dans Genèse 2, c'est à 17. Donc il peut comprendre, et bien comprendre que le mal existait. Et Dieu, dans le passage que nous venons de dire, ne se contente pas seulement de dire que le mal existait, mais il signifie également les conséquences, la mort. Et donc Adam devrait savoir ce que signifie mourir. Et dans la conversation de Ève avec Satan, nous avons une idée et il semble que c'est clair qu'il en a parlé à son épouse. Parce que quand Satan entre en conversation donc avec Ève, elle lui a répondu, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ça par contre, elle a rajouté. Dieu n'a pas dit ça. De peur que vous ne mouriez. Donc la femme parle de mourir. Cela démontre qu'elle connaissait bien la signification de ce que c'est mourir. Malheureusement, elle n'y croit pas et s'ouvre à la suggestion du serpent. Quoi retenir de ce que nous venons de décrire? D'abord, dans le jardin, l'homme pouvait entretenir des relations très privilégiées avec son Créateur. Et Dieu a préparé un endroit qui est propice à leur bien-être. Il ne manquait de rien, tant que l'homme était en règle avec Dieu. Et il y a cette question de cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au milieu du jardin. Mais il était défendu par Dieu. Pourquoi? Pour démontrer que cela est une occasion permanente donnée à l'homme de manifester à Dieu sa confiance absolue, mais dans une totale liberté. Donc, Adam et Ève ont le pouvoir de prendre du fruit ou de ne pas prendre. Ou en d'autres termes, d'obéir ou ne pas obéir. Et cela lui permet de dire à Dieu, je sais ce que tu veux. Et j'ai aussi ma propre volonté. Et nous savons la suite de l'histoire. Nous lisons au Genèse 3, versets 1 jusqu'à 7. Il est dit au verset 1 que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, verset 4, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Nous lisons verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Remarquez ici que le serpent qui est mentionné me semble que c'est bien plus qu'un animal des champs. Parce qu'il a le pouvoir de raisonner. Il a le pouvoir de parler. Et la Bible nous montre clairement dans Apocalypse que il est identifié ce serpent comme Satan lui-même. Apocalypse 12:9 et Apocalypse 22. Deuxième chose que nous devrions mentionner concernant ce serpent, il est un être créé. Le serpent était le plus léger de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nous avons toujours une idée fausse et nous présupposons à Satan ce qui n'est pas. Il était un être créé et dépendant de Dieu. Regardons rapidement les objectifs de Satan quand il s'adresse à Ève. D'abord, je relève au verset 1 quand il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Je vois la première chose à souligner, que Satan veut qu'on rejette Dieu comme source de la connaissance. Ça, c'est la chose que nous pouvons retirer. Premièrement, Satan veut qu'on rejette Dieu comme source de la connaissance. Il essaie d'éloigner Ève de Dieu. Il essaie d'éloigner Ève de ce Dieu qui sait tout. Et de ce qu'il y a à savoir. N'est-ce pas? Et ce qui est trompeur, c'est qu'il parle comme s'il en savait davantage que Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oui, quelle affirmation. Donc il veut détacher Ève de la parole de Dieu comme source de toute connaissance et remplacer la révélation divine par sa parole, la parole satanique. Ça c'est la première chose qu'on doit souligner. Deuxième chose que je vois aussi, ici Satan veut qu'on rejette Dieu comme source de l'autorité. Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres termes, si je peux le paraphraser, peux-tu vraiment croire que Dieu dirait ça? Il remet en question la parole de Dieu, créateur. Quelle est l'idée derrière ça? L'idée c'est que il suggère à Ève que tu peux avoir la capacité et tu as même le droit de juger de ce que Dieu a dit et de s'en prendre à son autorité. Vous voyez, derrière ces propositions qui est dangereuse. Et ça, c'est pas nouveau. On le voit aujourd'hui, la défection de beaucoup des dénominations qui étaient fidèles dans la parole de Dieu et qui finit par rejeter l'autorité de la parole de Dieu. Troisième chose que je vois aussi dans ce passage, Satan veut qu'on rejette Dieu en tant que guide pour notre conduite. Peut-être, j'exagère, peut-être en disant ça, qu'il avait en tête et il voulait suggérer à Ève, tu sais, tu penses que Dieu sait tout, mais tu sais, il va te priver de quelque chose. Et toi, tu ne peux pas savoir. Et Satan se présente à Ève comme celui qui était très préoccupé de son propre besoin, de son bien-être. Et il lui suggère une autre façon de vivre, par contraire à celle que Dieu préconise. Genèse 3:5, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il était vrai que leurs yeux s'ouvriraient et qu'ils connaîtraient le bien et le mal, mais vous le savez qu'il était faux de lui faire croire qu'il serait comme Dieu. Avec tous les attributs de Dieu. Il veut proposer autre chose que ce que Dieu a dit Adam et Ève, pour qu'ils rejettent Dieu en tant que guide pour leur conduite. Quatrième chose que je veux soulever aussi, Satan veut qu'on rejette Dieu comme étant celui qui contrôle notre destinée. Dieu a clairement révélé à Adam, ce que nous venons de lire, que son sort, s'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien au milieu du jardin, c'est la mort. 2:17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce que Satan fait? Il retoque, vous ne mourrez point. Dieu affirme avoir le contrôle de notre destinée et avoir le pouvoir de le réaliser, ce qu'il a déclaré. Et Satan fait croire qu'il sait mieux que Dieu pour notre destinée. Il prétend même qu'elle sera autre que celle annoncée par Dieu. Dieu dit c'est la mort. Et lui il dit non, vous ne mourrez point. Oui, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, leur vie, par crainte du futur, de l'avenir, se versent et vont vers le monde occulte, le monde satanique, pour voir ce que réservera le futur. Oh, méfions-nous de cela. Nous devions mettre notre confiance totale, non pas rentrer dans ce piège que Satan a proposé à Ève, qu'il a le contrôle de notre destinée, c'est pas vrai. C'est Dieu qui a le contrôle de notre destinée et non pas Satan. Et faisons-lui confiance pour notre futur, pour tous les détails de ce qui nous concerne. Et dernière chose que je vois ici aussi, Satan veut que Dieu ne soit pas l'objet de notre adoration. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc ils n'auront plus à adorer Dieu et ils seront leur propre Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans l'humanisme, nous en avons parlé dans le temps passé, où c'est l'homme qui est à la mesure de toute chose. L'homme prend sa vie et son destin en main. Et c'est ce que Satan suggère. Et ce que beaucoup suivent aujourd'hui même. Oh, que nous puissions ne pas tomber dans ces pièges et de faire confiance totale en Dieu, celui à qui est digne d'être adoré lui seul. Mais quelles étaient les conséquences de choix? Nous avons dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là pour montrer à Adam et Ève qu'ils ont la liberté, dans une totale liberté, de dire oui ou non à ce que Dieu leur a dit, d'obéir ou de ne pas obéir. Et nous savons les conséquences de leur choix. Première conséquence, ils connurent qu'ils étaient nus. Genèse 3, verset 7. Hein, vous avez vos Bibles ouvertes. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Nous avons rappelé que le serpent leur avait dit que s'ils désobéissaient, leurs yeux s'ouvriraient. Et c'est ce qui s'était produit. Et vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal devrait révéler à Adam et Ève ce qu'était le péché d'une part, et je dirais la sainteté d'autre part. Mais cette connaissance, il fallait qu'ils l'acquièrent tout simplement en résistant au péché. Qu'est-ce que ce que ça veut dire? Ils devraient l'acquérir, cette connaissance, en résistant au péché. Vous savez pourquoi on peut affirmer cela? La Bible le dit et l'enseigne clairement. Jésus savait plus que n'importe qui au sujet du péché, et pourtant la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Sa connaissance du bien et du mal lui vient parce qu'il a résisté au péché. Je parle quand il est dans son humanité, par expérience. Je parle ici, mais il est omniscient, il sait tout. Donc ici, sa connaissance du mal et du bien lui vient parce qu'il a résisté au péché. Regardez Hébreux 12:4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et ici, nous voyons qu'Adam et Ève ont obtenu cette connaissance, mais de la mauvaise manière. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont voulu, ils l'ont bien eu. Mais ça a créé en eux la culpabilité. Ils connurent qu'ils étaient nus, et nous lisons plus tard qu'ils s'enfuient quand Dieu les appelle. Où es-tu? Cela provoquait la culpabilité, et se découvrir dans cet état les avait remplis de confusion. Et vous savez, même pour nous, Satan toujours stimule en nous de fortes envies pour quelque chose. Et quand nous l'avons, nous n'en voulons plus. Et vous savez, un exemple que la Bible nous donne dans cela, et je vous rappelle l'exemple de Amon, qui est l'un des fils de David, qui éprouvait, dit la Bible dans 2 Samuel 13, versets 1 à 2, un penchant très fort pour sa demi-sœur qui s'appelle Tamar. Mais après l'avoir violée, il l'a chassée et ne voulut plus d'elle. Qu'est-ce que je voulais dire ici? La connaissance du bien et du mal, ils l'ont acquis, non pas en résistant au péché. Le Seigneur nous montrait bien la voie, il connaît ce que c'est le péché, par expérience. En résistant au péché, parce qu'il n'a jamais péché, dit la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a des jeunes, il y a des adultes, ça nous arrive. Et parfois tenter de dire, oui, je veux goûter au péché. Et après que j'ai goûté, je veux voir et je n'en ferai plus. J'ai pris connaissance de ce que c'est ce péché qu'il est mal. Il fait mal, n'est-ce pas? Et ça, vous l'avez goûté. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut agir. Et c'est une grave erreur, je dirais. Nous devons plutôt acquérir la connaissance du péché en résistant au péché et non en nous y cédant. J'aimerais vous rappeler 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2, qui dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Le principe ici, c'est que vaut mieux souffrir pour ne pas pécher, ça c'est l'idée ici, que de céder au péché et d'avoir à souffrir les conséquences, parfois le restant de sa vie. Et ça c'est une leçon pour nous que je vois indiquée ici. Qu'il faut retenir, vaut mieux souffrir en résistant de ne pas pécher que de céder au péché et ne plus maîtriser les conséquences de cet acte, de ce choix. C'est ce qui est arrivé à Ève et qui peut nous arriver si nous marchons dans la désobéissance. Deuxième conséquence que je vois aussi au Genèse 3:10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est Adam qui répond à Dieu qui lui demandait « Où es-tu ?» Vous voyez, cette connaissance du bien et du mal ne l'a pas amené à Dieu. Au contraire, elle lui a amené à s'éloigner de Dieu. Et ici, c'est Dieu qui est venu le chercher. Et ça, ce n'est pas nouveau. Le Nouveau Testament nous dit que personne ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Romains 3:11. Mais c'est Dieu qui nous attire vers lui. Jean 6, 44. Mais dans cette terrible question, où es-tu? Je vois un rappel de la justice divine qui ne peut pas excuser le péché. Je vois dans cette question, où es-tu? Un rappel de la tristesse divine affligée à cause du péché. Et je vois dans cette question, où es-tu? Un rappel de l'amour divin qui offre la rédemption du péché. Oh, c'est grandiose. C'est terrible cette question, mais couvre par derrière ce qui est le vrai Dieu, qui souffre aussi à cause du péché. Troisième conséquence que je vois aussi, par cette connaissance du bien et du mal, Adam et Ève cherchent à s'excuser au lieu de confesser leurs péchés. Et même parfois, ils renvoient la responsabilité à d'autres, même sur Dieu. Dans Genèse 3, versets 12 et 13, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et la femme, de même, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi fais-tu cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ça, c'est pas nouveau. C'est l'attitude souvent que nous, par laquelle nous agissons aussi. Ce qui s'est passé dans ce jardin, les conséquences vont être terribles. Et nous allons regarder rapidement Genèse 3, 16. Le premier conséquence de ce choix délibéré de désobéir flagramment à Dieu, c'est que Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Première chose, le péché a plongé le monde dans la souffrance. Ici, cette souffrance a augmenté pour Ève en accouchant. C'est pour toutes les femmes. On parle de la douleur de l'enfantement. Pour Adam, il va souffrir en travaillant la terre. Et rappelons-nous que le jardin, quand nous l'avons lu au départ, il était bien irrigué, il était fertile. Tout est propice à la vie. Mais maintenant, tout va changer. Maintenant, les épines et les charbons sont là. Et c'est pas que le travail est maudit, c'est que il y a la malédiction maintenant sur le fait que ça devient dur de gagner sa vie. Comme on dit, gagner sa croûte, permettez-moi cette expression, à cause de la malédiction que nous voyons ici. Le travail n'est pas une malédiction, mais le travail devrait être maintenant pénible. Sur quoi la malédiction repose? Et nous voyons aussi que le péché a entraîné un désastre écologique. Deuxième chose que je vois dans le jugement de Dieu, Genèse 3:16, le péché a endommagé la relation entre l'homme et la femme. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez la perversion des rôles entre la femme et l'homme. Ici, la femme aura tendance à assujettir l'homme de façon très subtile. Et l'homme aura tendance à dominer et à tyranniser la femme. Vous n'avez que constater la véracité et la vérité de ces choses. Et troisième conséquence, le péché, par le péché, la mort va frapper la race humaine. Et vous savez, quand on parle de la mort, attention, il ne faut pas avoir l'idée d'un anéantissement ou plus non-existence. Quand on parle de la mort, la Bible parle d'une séparation de quelque chose. Retenez, la mort c'est une séparation de quelque chose avec une autre. Et brièvement, ici quand il parle le jour où tu mangeras, tu mourras. Il parle d'abord de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre l'âme et l'esprit de l'homme de Dieu. Séparation de l'âme et l'esprit de Dieu. Adam et Ève ont joui d'une relation intime avec Dieu, nous avons dit, mais par leur désobéissance, cette relation qu'ils avaient avec Dieu est rompue. Et nous le savons, que ces enfants, les petits enfants d'Adam, et toute l'humanité issue d'eux, quand ils viennent au monde, sont séparés de Dieu. En d'autres termes, morts spirituellement. C'est pour cela que la Bible parle, vous pouvez être en bonne santé physique, en pleine forme, mais la Bible vous qualifie de mort. Mort spirituelle, parce qu'il dit, Éphésiens 2:1, étant mort par vos enfants, c'est vos péchés. C'est le cas de ceux qui n'ont pas réglé leur vie quant au péché vis-à-vis de Dieu. Où la solution se trouve en Christ, le substitut qui a subi la peine, la colère de Dieu, pour que le pardon de Dieu puisse vous être accordé. Par la foi, simplement, en acceptant ce que Dieu vous offre. Vous pouvez vous être en bonne santé physique, mais vous êtes mort, séparé de Dieu dans votre âme et votre esprit. Il y a aussi la mort physique, c'est la séparation de l'âme et l'esprit de l'homme, de son corps. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3:19. La Bible parle aussi de la seconde mort. C'est la séparation éternelle de l'âme et de l'esprit de l'homme de Dieu. Vous pouvez le voir, Apocalypse 20, 11, 12, 14 et 15. Mais je ne veux pas lire ces passages. Dernière chose à dire sur les jugements qu'ont subi Adam et Ève, ils étaient expulsés hors du jardin. Vous voyez, Genèse 3, 22. Voici, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, et empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, Adam et Ève, bien que portant physiquement, il est dit dans la Bible qu'il a vécu encore 930 ans après, il est mort spirituellement, à l'instant même. Et donc, le fait de prendre de l'arbre de vie lui permettra de vivre corporellement, éternellement. Hein, parce qu'il est bien dit ici, empêchons-le d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'immortalité aurait été communiquée à Adam grâce au fruit de l'arbre de vie s'il avait obéi. Je vois ici quelque chose d'important à souligner. C'est que si Dieu n'a pas chassé Adam et Ève du jardin, leur immortalité corporelle équivaut à une mort éternelle pour leur âme. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient morts spirituellement le jour où ils ont mangé. Mais ils sont bien portants physiquement. Et alors, prendre de l'arbre de vie, ça veut dire corporellement vivre éternellement. Mais en étant mort dans son âme. Et c'est une grâce. Dieu les sachait de là. Et on voit ici que l'expulsion du jardin paraît négative à première vue, mais son but est positif. C'est pas en soustrait, mais on ajoute, on donne, Dieu donne. Et ça, c'est magnifique. Par cet acte, malgré les graves conséquences du péché, Adam et Ève a fait subir à toute l'humanité les conséquences de leur péché, parce qu'Adam est notre représentant. Et ce que je vois, la dernière chose, où on voit une lueur dans ce qui s'est passé dans ce jardin. Parce qu'avant de les chasser du jardin, Dieu donne une promesse. Regardez Genèse 3:15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un jour la femme mettrait au monde un enfant mâle, et cet enfant qui va écraser la tête de Satan. Mais écraser la tête signifie infliger une blessure mortelle. Mais il est dit, et tu lui blesseras le talon. Satan aussi ferait mal à l'enfant, mais ce ne sera qu'une blessure au talon. C'est-à-dire infliger une blessure dont on peut guérir. Et nous savons, c'est pour ça l'objet de méditer là-dessus, que sur la croix, Jésus a écrasé Satan, et ce dernier lui a blessé le talon. Jésus a été blessé à mort, mais nous savons qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Et ce qui nous amène cette promesse, ce qu'on appelle ici le proto-évangile, le premier annonce de l'évangile, à nous transférer des siècles plus tard maintenant dans le deuxième jardin. Dans le deuxième jardin, qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin des Oliviers? J'aimerais que vous regardiez, tournez votre Bible dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Nous venons de voir le désastre, mais il y a un espoir, parce que Dieu a pris en main la situation, et que ça nous transporte maintenant pour cet enfant mâle. Nous allons voir ce qui lui va arriver dans ce deuxième jardin, celui du jardin des Oliviers ou jardin des Gethsémanais. Gethsémanais, vous savez, signifie le pressoir d'huile, et était un jardin un peu isolé sur le mont des Oliviers. Et Jésus avait l'habitude d'y venir avec ses disciples. Luc 22, 39. Et nous lisons maintenant, qu'est-ce qui s'était passé dans ce jardin du Gethsémané, le deuxième jardin. Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Mais c'est de penser et vous transporter plusieurs milliers d'années en arrière et imaginer ce qui s'était passé en lisant ça. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et Pierre, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il nous est dit, verset 43, il revient et le trouva encore endormi car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45, puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Oui. Ce qui se passe dans ce jardin va nous rappeler les souffrances de notre Seigneur causées par cette blessure au talon que lui a affligé Satan. Selon cette promesse dans Genèse 3.15, j'aimerais, pour nous préparer dans la Sainte Cène, nous rappeler verset par verset juste cette angoisse. Mais avant cela, j'aimerais quand même préciser quelque chose, qu'il y a certaines affirmations qui n'est pas correctes. Concernant cet événement, cette angoisse et souffrance du Seigneur, parfois, c'est pas mal intentionné, mais c'est erroné et qui peut être un danger. Je vais en citer juste une ce matin. Il y a ceux qui disent que le Seigneur a connu, ici en parlant du jardin de Gethsémané, une tristesse, une angoisse si extrême qu'elle dépassait son endurance et qu'ainsi un ange est venu le fortifier afin de le sauver de la mort dans le jardin. Vous savez qu'aucune circonstance, aucun pouvoir, même céleste ou terrestre, même infernal, ne pouvait ôter la vie au Seigneur. Donc, le Seigneur n'a jamais été en danger de perdre sa vie, que ce soit dans le désert avec Satan, rappelons-nous tout au début de son ministère, durant son ministère, à Gethsémané et même à Golgotha. Pourquoi? Parce qu'il disait, en considérant ici ce qui se passerait au calvaire, je la donne ma vie de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Donc, il ne risquait pas de mettre en danger sa vie. Donc, vous voyez cette erreur. Ceci dit, c'était important parce que cela laisse planer que notre Seigneur a perdu un aspect de son omniscience, de son omnipotence, et c'est une erreur grave. Et nous devrions le dénoncer ainsi. C'est pour cela que je fais ce rappel. Et maintenant, regardons rapidement ce qui est décrit concernant cette angoisse du Seigneur, qui sont très forts, et je dirais des expressions même d'une lutte intérieure, par rapport à la, non pas par rapport à la mort physique, mais par rapport à la séparation d'avec son Père. Verset 37, j'éprouve de la tristesse et des angoisses. Vous voyez, le mot grec ici signifie quelqu'un qui est submergé. Carrément submergé et entouré par une angoisse inévitable. Verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ça me fait penser à ce qui s'était passé au roi David, n'est-ce pas? Nous lisons ça dans 2 Samuel 15, verset 23 et 30, vous pouvez le noter. Cette expression nous fait penser à ce qu'il a vécu quand il fuyait son fils Absalom. Dans 2 Samuel 15, verset 23, il est dit, toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple, le roi David passa le torrent de Cédron, vous voyez, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Au verset 30, David monta la colline des Oliviers, c'est la colline que nous parlons, il montait en pleurant et la tête couverte, il marchait nu-pied et tout ce qui était avec lui se couvrit la tête et montait en pleurant. Bien sûr que ça nous fait penser au roi David, mais je dirais aucun homme pécheur ne peut saisir le sentiment du cœur pur et incorruptible du Seigneur, qui est le roi des rois, lorsqu'il se courba lui-même sous le poids du chagrin qui s'abat sur son âme. Continuez au verset 38 et 40, il dit, restez ici, veillez avec moi. Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Dans sa détresse, il désirait être soutenu, être dans la communion avec les siens, mais en vain, en vain. Verset 39, ayant fait quelques pas en avant, ça veut dire pas en avant par rapport aux disciples, ça veut dire qu'il est tout seul, dans la solitude totale. Verset 39 encore, il se jeta face contre terre pour décrire l'intensité de la douleur. Et vous pouvez voir même dans Luc, il est dit que il transpirait même du sang. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il répétait trois fois cette prière, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, décrit l'abomination de devenir péché pour nous. » Celui qui n'a point connu le péché, l'a fait, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devions en lui justice de Dieu. Vous savez, c'est très intéressant quand on compare les quatre évangiles, c'est uniquement Matthieu. Et ça, vous le verrez, dans les quatre évangiles, c'est la seule fois où Jésus, dans toutes les évangiles, prie, s'adresse à son Père et dit « Mon Père ». C'est le deux fois, et dans ces circonstances au Gethsémané, qu'il adresse ainsi à son Père, à titre personnel. Vous savez, ça ne pouvait que nous émerveiller. Tout ce que nous venons de voir et rappeler, et suscite en nous l'adoration, quand nous considérons la gloire de la soumission parfaite de notre Seigneur, hein, quand il prie par ces mots. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 39, verset 42, que ta volonté soit faite. Et vous savez, Dieu lui a exaucé. Non pas en enlevant la coupe, mais Dieu l'a exaucé en lui donnant la grâce, la force d'aller le boire quelques heures plus tard à Golgotha. Et pour terminer, ce qui s'était passé dans ce jardin, c'était dans ce jardin que Judas et ses hommes l'ont arrêté pour le conduire vers un jugement inique et vers une condamnation. C'était décidé d'avance par les chefs religieux, injuste. Rapidement, pour passer avant de passer au dernier jardin, après qu'ils ont quitté le jardin de Gethsémané, nous savons qu'il est amené devant Anne, le souverain sacrificateur. Il a été jugé dans le tribunal de Sanhédrin. Il est amené chez Pilate pour être légalement condamné. Après, Pilate l'envoie à Hérode. Hérode l'envoie à Pilate. Et Pilate cherchait à le libérer, vous le savez, et fait rappeler aux Juifs la coutume de relâcher un criminel lors de la fête de Pâques. Pilate a ordonné après qu'on le batte de verge. Les soldats se moquaient de lui en lui plaçant sur la tête une couronne d'épines. On lui crache sur la figure, on le fouette. Le Seigneur Jésus est amené à un lieu appelé Golgotha, où il fut crucifié entre deux malfaiteurs. Nous ne trouvons pas deux mots pour exprimer notre consternation en réfléchissant, en méditant sur ce qui s'était passé. Et nous ne pouvons que tomber en admiration, comme je l'ai dit tout à l'heure, en adoration, parce qu'il a accepté de subir tout ça par amour pour nous.
parce qu'il a pris notre place, nous qui devrions prendre la sienne.
Oui, sur la croix, Satan a infligé une blessure au talon à notre Seigneur en le blessant à mort, mais il est ressuscité.
Ce qui nous amène, pour terminer, à considérer rapidement qu'est-ce qui s'était passé au troisième jardin, le jardin de la résurrection.
Regardez votre Bible dans Jean 19, 41 et 42.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis.
Verset 42. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.
Ce jardin qui est à proximité de Golgotha
est l'endroit où il fut crucifié.
Et nous lisons à l'instant qu'à proximité de Golgotha se trouve ce jardin où le corps du Seigneur y était déposé.
Et nous savons qu'il a été déposé et un certain homme, Joseph d'Arimathée, qui l'a mis dans ce sépulcre neuf. Ce qui veut dire qu'il est mort.
Mais son corps n'est là que de façon temporaire, car Jésus, vainqueur de la mort, va ressusciter.
Et vous vous rappelez l'ange qui est venu vers Marie de Magdala d'annoncer cette bonne nouvelle à ses disciples et à ses frères.
Et je voulais terminer par là, Matthieu 28, versets 1 à 7, je vous le lis.
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Au verset 5, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié.
Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit.
Venez, voyez le lieu où il était couché. »
Et l'ange dit, « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts.
Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez.
Voici, je vous l'ai dit. »
Et qu'est-ce que faisaient ces deux femmes?
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte, avec une grande joie, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples.
Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus a écrasé la tête du serpent. Satan est vaincu pour toujours.
Et vous savez, nous allons, pendant le règne de 1000 ans, avec le Seigneur, voir l'accomplissement parfait et total de cette victoire qui est déjà acquise, où Satan sera lié pendant les 1000 ans, et après sortir quelque temps et jeter dans les temps de feu pour toute l'éternité.
Il est vaincu.
Et combien c'est là qui doit occuper nos pensées, comme ces deux femmes courues avec joie annoncer qu'il est ressuscité.
Oh, ce troisième jardin.
Je voudrais terminer en résumant ce que nous venons de voir et apprendre et nous rappeler de ce qui s'était passé dans ces trois jardins.
Le premier Adam et sa femme ont été chassés du jardin en Éden, nous avons vu, à cause de leur péché.
Et Christ, le deuxième Adam, qui était la postérité de la femme, a souffert dans le jardin de Gethsémané. Il était arrêté puis condamné et mis à mort pour nos péchés à cause des blessures au talon que lui infligeait Satan. Parce que Dieu l'a permis. Il a voulu et Christ aussi l'a accepté volontairement.
Et c'est aussi dans un sépulcre près du jardin de Golgotha qu'il a ressuscité et donnant une vie nouvelle et éternelle à tous les croyants.
Et vous savez, cette résurrection qui atteste la victoire de notre Seigneur sur Satan. Il a écrasé la tête du serpent. Satan est vaincu pour toujours.
La Bible parle qu'il a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort, parce que la mort n'a pas pu le retenir.
Et il est ressuscité. Gloire à Dieu.
Et pensons à cela. Nous allons prendre la Sainte Cène dans quelques instants. Notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as un plan si merveilleux. Comme j'ai mentionné, ce fil rouge du plan du salut conçu de toute éternité. Tu n'as été jamais surpris par quoi que ce soit. Ou comme un plan B, comme on en parle beaucoup maintenant. Ce plan B, non, Dieu a tout vu, il ne s'est pas trompé. Et à travers ces trois jardins, nous rappeler de la chute, nous rappeler de substitut qui a souffert à notre place, et de rappeler qu'il a vaincu Satan, notre ennemi, parce qu'il est ressuscité. Ô Seigneur, gloire te soit rendue. Donne-nous de nous émerveiller de ces vérités, de nous émerveiller que nous avons la vie, nous sommes ressuscités aussi avec lui, et nous vivons en Christ, même si cette vie est encore cachée. Et merci, parce que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous voulons te bénir, te remercier.